Bonjour à toutes et à tous. Les patrimoines ont un point commun. Nous éduquer par l'enseignement du passé, de ce que fut ce passé, de ce que nous devons en retenir. Ce patrimoine est un vivant témoin de la diversité culturelle dont nous héritons. Nous avons ensemble développé nos réflexions ou recueilli des témoignages concernant principalement des patrimoines existants, créés dans un passé plus ou moins lointain, allant jusqu'à évoquer l'archéologie. Rappelez-vous, c'est ainsi qu'en septembre, nous avons interviewé Mme Camilla Canoni, responsable des recherches archéologiques de l'évêché d'Autun. Précédemment, une émission avait concerné le site gallo-romain des Bollards, qui voisine du Saint-Georges. Mais ces patrimoines passés ne doivent pas faire oublier qu'aujourd'hui, nombre de responsables continuent à créer des patrimoines, à nous les proposer comme faisant partie des activités institutionnelles, industrielles, culturelles et de loisirs auxquels nous sommes sensibles. Pour cette émission du mois d'octobre, je vous propose de vous intéresser à un aspect particulier qui n'a pas encore été évoqué. Nous ne nous sommes pas encore interrogés sur ce qu'il représente en termes économiques. Souvent, nous entendons dire que le patrimoine, ça coûte, parce qu'il faut le créer, l'entretenir, le faire vivre. Mais plus rarement, nous nous interrogeons sur ce qu'il apporte à notre société. Pour en discuter, j'ai fait le choix de vous faire rencontrer Benoît de Charette, président de la Cité des climats et vins de Bourgogne. Pour qui ne s'en souviendrait pas, je rappelle que le bâtiment implanté à Beaune a été primé par une bonne douzaine de prix nationaux et internationaux pour la qualité de son architecture, son originalité, ses scénographies et sa muséographie remarquable. Elle a notamment reçu le très prestigieux prix du Best Wine Museum, ce qui n'est pas peu dire. Bonjour Benoît de Charette.
Bonjour.
Merci de nous accueillir à Beaune. C'est donc à Beaune qu'est implantée la Cité des climats des vins de Bourgogne ?
Tout à fait. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans, puisque nous avons inauguré ce bâtiment et cette muséographie en juin il y a 2 ans, et que nous sommes encore dans une phase de lancement, si je puis dire, dans la mesure où on attend bien sûr un visitorat plus large que celui que nous avons actuellement. Mais les choses progressent dans le bon sens. Et ce qui nous passionne le plus, c'est de voir que ce patrimoine, à la fois matériel et immatériel, passionne de plus en plus de monde, de toute nature, de tout horizon, que ce soit des étrangers de passage à Beaune, des étrangers attirés par les vins de Bourgogne, le grand public de passage aussi, et beaucoup d'autres, y compris bien sûr nos collègues de Bourgogne et de Franche-Comté.
Comment vous positionnez par rapport au climat de l'UNESCO et puis par rapport à la cité gastronomique de Dijon ? Comment ça se passe ?
Nous sommes officiellement le centre d'interprétation des climats. Ces fameux climats, donc des lieux dits de Bourgogne, qui ont donc été labellisés par l'UNESCO en 2015. Et dans ce cahier des charges de l'UNESCO, il y a la recommandation forte de faire un centre d'interprétation pour expliquer au public en quoi la Bourgogne et ses climats ont une valeur universelle exceptionnelle, ce qu'on appelle la VUE. C'est important parce qu'il ne s'agit pas simplement de classer. Là, l'UNESCO a classé une économie qui continue de se développer. C'est une économie vivante, c'est un patrimoine vivant, et il est important de pouvoir le partager avec l'ensemble de ceux que ça peut intéresser.
C'est-à-dire les Côtes d'Orient, ou un peu plus large, ou éventuellement des étrangers ?
Bien sûr, le monde entier, finalement, hein, puisque nous avons voulu expliquer, raconter la Bourgogne, expliquer comment la Bourgogne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, 2000 ans d'histoire, plus 200 millions d'années de formation géologique complexe, qui font qu'aujourd'hui, la Bourgogne est reconnue par tous les grands amateurs de vins du monde entier, comme l'archétype des vins de terroir. Il y a quelques grands modèles à côté des vins de terroir. Hein. Il y a le cépage, bien sûr. Il y a le développement tel que Bordeaux a pu le faire avec cette notion de château. Mais cet ancrage dans le terroir, c'est vraiment la marque d'identité de la Bourgogne. Et c'est ça que le dossier climat UNESCO a sacralisé. Et c'est ça que nous expliquons, que nous racontons à travers cette cité des climats. Alors comment on se situe ? On se situe complètement tourné vers l'avenir. On a ce devoir de compréhension de ce qu'est ce patrimoine viticole et vinicole bourguignon et toutes ses prolongations économiques. C'est le thème de notre rencontre ce matin. En quoi le patrimoine est important, y compris dans son ruissellement économique.
Pour être plus performant en matière économique, vous avez fait, je crois, trois sites. Un site à Beaune, un site à Chablis et un troisième à Mâcon, ou s'il y a d'autres raisons.
Alors, nous sommes une région un peu éclatée. Le cœur, bien sûr, ça reste la côte de Beaune, la côte de Nuits. Mais il fallait également, dans cette démarche, et qui est également une démarche professionnelle, il fallait pouvoir associer complètement le vignoble de Lyon, principalement de Chablis, et le vignoble de Saône-et-Loire, en particulier le Mâconnais. Voilà, d'où ces deux petites sœurs, avec une scénographie assez différente, mais tout aussi passionnante, qui cherche à montrer, c'est à la fois la porte d'entrée sud et la porte d'entrée nord de la Bourgogne, et en même temps il y a un focus sur ces vignobles du Mâconnais, côte chalonnaise, et de Chablis et de l'Auxerrois.
Je prétendais tout à l'heure que vous aviez eu de nombreux prix. Est-ce bien exact, vous avez eu des prix pour ces architectures ?
Vous avez dit tout à l'heure effectivement qu'on a eu une douzaine de prix, juste dans les 18 mois qui ont suivi l'ouverture. L'architecte Emmanuel Andréani a vraiment conçu un geste architectural fort autour de cette rotonde qui simule un peu les vrilles de la vigne. Tout ça dans ce parc qui a été aménagé par la ville de Beaune et qui donne effectivement une dimension à ce projet dans la mesure où au départ il y a aussi cette dimension architecturale forte, très moderne, tournée vers l'avenir, mais en même temps ça nous permet de pouvoir dans cette nouvelle enceinte raconter la Bourgogne en tant que patrimoine mais également en tant qu'économie vivante.
Économie vivante, ce qui veut dire que vous avez dû faire un projet. Est-ce que vous pouvez assez rapidement nous parler un peu comment ce projet a été constitué, ici d'ailleurs, mais également avec d'autres façons de l'approcher, à Chablis et également à Mâcon.
Alors, le projet, il était inscrit dans le quelque part par l'UNESCO, qui souhaitait donc que la Bourgogne fasse, comme cette zone de climat, peut-être un petit peu complexe, il fallait pouvoir la raconter, l'expliquer. Donc ce projet, il est né véritablement avec le dossier climat, et il est encore plus clair à partir du moment en 2015 où on est reconnu, labellisé. Ensuite, naturellement, on s'est appuyé sur un certain nombre de... D'abord sur un cahier des charges très fort, qui a été piloté par ce qu'on appelle l'interprofession, le BIVB, a dit voilà ce qu'est la Bourgogne, voilà ce qu'est notre géologie, voilà ce qu'est notre histoire, voilà ce qu'on a découvert au fil des siècles. C'est important de le retracer. Depuis quand cette notion de climat est-elle inscrite dans notre patrimoine, dans notre passé ? Tout ça est des éléments extrêmement concrets. Et on s'est appuyé naturellement sur un certain nombre d'historiens, de scientifiques, de géologues, pour pouvoir avoir véritablement une sorte de comité scientifique qui nous a aidés dans cette démarche et qui nous a permis d'étayer tout ce que nous avions à dire. Tout ce qui est raconté, tout ce qui est dit dans notre parcours scénographique, à Beaune en particulier, mais c'est vrai aussi à Mâcon et Chablis, ce ne sont que des éléments vérifiés historiquement ou scientifiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas une historiette qu'on raconte, c'est véritablement comment la Bourgogne en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Dans ce concert des grandes régions viticoles à l'échelle mondiale, on occupe une place tout à fait particulière, je le disais tout à l'heure, en tant que grand modèle des vins de terroir. Mais ça mérite une explication, aussi bien auprès du grand public que des grands amateurs d'où qu'ils viennent.
Nous rencontrons aujourd'hui Benoît de Charette, président de la Cité des climats et vins de Bourgogne. Il n'y a pas que le grand public qui doit être intéressé, il n'y a pas que le particulier, il y a probablement également des professionnels. Est-ce bien le cas ? Vous avez des professionnels qui viennent au centre d'interprétation pour connaître, comprendre et mieux s'imprégner de ce qu'est notre Bourgogne ?
Alors, on a des professionnels qui viennent un peu du monde entier, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose d'assez fort là. C'est leur intérêt pour la Bourgogne qui les pousse à découvrir tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été expliqué de façon très pédagogique dans le parcours scénographique, mais on touche bien sûr également la population locale et en particulier les professionnels de Bourgogne, les viticulteurs, les négociants, les courtiers, tous ceux qui travaillent pour cette filière vin. On les touche de plus en plus. Et quand ils découvrent cette scénographie, ils découvrent véritablement un outil aussi pour eux. Nous avons une sorte de carte interactive où on peut découvrir l'ensemble des parcelles, l'ensemble des climats, les 1500 et quelques climats répertoriés dans le dossier UNESCO sont tous expliqués sur ces panneaux interactifs. On explique également la toponymie, d'où viennent les noms, d'où vient le nom Les Amoureuses à Chambol-Musigny, d'où vient le nom Montrachet. Enfin, tout ça est intéressant aussi parce que c'est ancré dans notre histoire, dans notre patrimoine. Mais en même temps, ça a une résonance économique aujourd'hui.
Vous pourriez nous dire un peu d'où viennent ces noms, notamment celui de Montrachet ?
Montrachet, juste au-dessus de cette parcelle de Montrachet, qui fait à peu près 8 hectares, vous avez une sorte de petit mont qui est rachitique. Donc Montrachet, en fait, c'est le mont rachitique. Ça veut dire que le sol est pauvre, mais tout à fait adapté à nos grands chardonnays. Le mont Les Amoureuses à Chambol, c'est très amusant. Ça n'a rien à voir avec une petite histoire, une petite historiette d'amourette. Il s'agit en fait... Dans cette parcelle, la terre colle un peu plus, un peu de marne. Donc quand ça colle aux bottes, on dit « Oh ben la terre, elle est amoureuse », comme disent les vignerons. Voilà, ça colle, simplement. Et c'est une histoire vraie, parce qu'on retrouve tous ces mots et leur explication dans le parcours. Si vous prenez le mot « Chambertin » aussi, eh bien on retrouve dans les actes le chant de Monsieur Bertin.
Merci de ces précisions qui nous font certainement tous repartir un peu plus, avec plus de connaissances que nous avons en arrivant. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'économie. Une opération comme la vôtre, ça coûte en premier investissement, ça coûte en fonctionnement, ça coûte en recherche, marketing et autres. Mais est-ce que ça apporte quelque chose hormis le plaisir, la connaissance, la beauté architecturale, le fait de faire venir du tourisme? Quel est l'impact que peut avoir cette opération?
Alors, c'est une vraie question. Je vous rappelle d'abord que nous avions quand même l'obligation de faire un centre d'interprétation. Alors on pouvait faire quelque chose peut-être de plus modeste, mais la Bourgogne, à travers ses instances... La famille viticole, la famille de négoce, rassemblée dans le cadre de l'interprofession, s'est dit, on a quand même un vrai discours à tenir pour expliquer ce que nous sommes, on est parfois jugé complexe, auprès de publics très larges, que ce soit le grand public, comme je l'évoquais déjà plusieurs fois, que ce soit les habitants de nos régions, Bourgogne-Franche-Comté, les autres, le Lyonnais, la région parisienne, et que ce soit vis-à-vis de l'étranger. Actuellement, nous avons à peu près 40% d'étrangers qui visitent notre CT, ce qui prouve bien qu'il y a un intérêt fort. Donc les retombées économiques, naturellement, c'est un investissement important au départ. Mais c'est aussi un acte un peu politique et stratégique de la Bourgogne qui se dit « je vais expliquer ce que je suis ». Je prends position quelque part sur un plan politique, entre guillemets, sur un plan mondial, international, en expliquant ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans? Quelle a été la découverte des différentes populations d'hommes, hein? Qu'est-ce qu'ont apporté les Romains, les Burgondes, bien sûr les grands mouvements monastiques, je pense en particulier à Cîteaux, qui a fait un travail pratiquement scientifique, au moins au départ, et puis naturellement, ensuite le 19e, l'industrialisation et tout. Et tout ça mérite d'être expliqué. Ce n'est pas un montage marketing, c'est une vérité historique qui vient étayer aujourd'hui un vrai schéma de développement pour la Bourgogne. Donc vous voyez que l'aspect patrimoine est complètement imbriqué dans l'aspect économique, dans cette opération de climat et de cité en Bourgogne, et qu'on a maintenant à continuer à le développer. Alors on avait conçu ce bâtiment et cette opération, pas simplement autour de la muséographie, ouverte à tout le monde pour expliquer la Bourgogne, mais également nous avons raccroché à cette muséographie un ensemble de métiers, si je puis dire, dont la formation autour du vin, dont la découverte des accords mets et vins avec une restauration de qualité tournée autour de la découverte des vins au quatrième étage, dont également, c'est important, le fait que nous pouvons, tous les soirs ou pratiquement, nous louons des espaces, même la mésographie, à des entreprises ou à des associations qui veulent profiter de ce lieu un peu magique. Et tout ça, naturellement, nous amène des retombées financières. Mais je ne vous cache pas que dans une opération telle que la nôtre, avec une montée en puissance qui n'est pas terminée, nous n'avons pas encore atteint complètement l'équilibre. Mais notre objectif, c'est d'atteindre l'équilibre d'ici 2028-29 pour pouvoir véritablement étayer ce projet patrimonial avec et parallèlement un projet économique.
Vous avez donc à la fois des retombées directes, mais également des retombées indirectes par le tourisme que vous permettez et tout l'ensemble de l'industrie touristique locale ou régionale.
Bien sûr, on est complètement imbriqué sur les opérations tourisme. C'est vrai pour l'office de Beaune, c'est vrai aussi à Chablis-Mâcon, c'est vrai à l'échelle de la région. Quand un dossier UNESCO est labellisé, l'UNESCO estime que ça peut apporter jusqu'à 30% de tourisme en plus. Il y avait déjà en Bourgogne un tourisme important autour du vin, l'énotourisme, pour prendre un mot à la mode. Toujours est-il que cette imbrication entre le patrimoine et le tourisme est forte. Mais au-delà de ça, vous avez vu que dans cette dimension économique, il y a le tourisme, évidemment, mais il n'y a pas que le tourisme, ce qu'on a expliqué tout à l'heure.
Merci, mon cher président. Je vous souhaite une pleine réussite, bien évidemment, dans la poursuite de votre expansion pour le plaisir de la Bourgogne et pour la réussite de vous-même et de tous vos collaborateurs. Nous avons aujourd'hui évoqué une autre particularité du patrimoine, celle à laquelle on ne pense pas collectivement, c'est-à-dire sa capacité à accroître notre richesse régionale et nationale. Benoît de Charette nous a expliqué quelle était la valeur ajoutée, justement, de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Ce patrimoine, ne l'oublions pas, lorsqu'il s'agit de le restaurer, le sauvegarder et le transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. Notre émission se termine. Je vous remercie de votre attention en espérant qu'elle ait pu vous apporter une réflexion supplémentaire sur l'ensemble de tout notre patrimoine. Aimons notre patrimoine, portez-vous bien et à très bientôt.